Chapitre 14. Percy et Patmol. Le lendemain, Harry fut le premier à se réveiller. Il resta allongé un moment à regarder la poussière tourbillonner dans un rayon de soleil qui s'était glissé entre les rideaux de son baldaquin et se réjouit à la pensée qu'on était enfin samedi. La première semaine du trimestre lui avait donné l'impression de traîner interminablement comme une sorte de gigantesque leçon d'histoire de la magie. À en juger par le silence endormi qui régnait dans le dortoir et la lueur du rayon de soleil qui semblait fraîchement tomber du ciel, l'aube venait tout juste d'apparaître. Il écarta les rideaux autour de son lit, se leva et commença à s'habiller. En dehors du gazouillement lointain des oiseaux, on n'entendait que la respiration lente et profonde des autres griffons d'or endormis. Il ouvrit son sac sans faire de bruit, en sortit plumes et parchemins, puis descendit dans la salle commune. Il alla s'asseoir dans le vieux fauteuil moelleux qu'il affectionnait particulièrement, à côté de la cheminée où le feu était à présent éteint. Harry s'installa confortablement et déroula ses parchemins tout en jetant un coup d'œil autour de la pièce. Les bouts de papier froissé, les vieilles bave-boules, les fioles d'ingrédients vides et les papiers de bonbons qui jonchaient habituellement le sol à la fin de la journée avaient disparu, tout comme les chapeaux de laine d'Hermione. Se demandant vaguement combien d'elfes s'étaient désormais retrouvés libres, qu'il l'ait voulu ou pas, Harry déboucha sa bouteille d'encre et y trempa sa plume qu'il tint suspendue à quelques centimètres au-dessus de la surface lisse et jaunâtre du parchemin. Il réfléchissait. Mais au bout d'une minute environ, il se surprit à contempler l'âtre vide de la cheminée sans avoir la moindre idée de ce qu'il pourrait écrire. Il se rendait compte maintenant combien il avait dû être difficile pour Ron et Hermione de lui écrire des lettres au cours de l'été. Comment s'y prendre pour raconter à Sirius tout ce qui s'était passé pendant la semaine et poser toutes les questions qui le tourmentaient sans donner à d'éventuels voleurs de lettres une quantité d'informations qu'il voulait précisément leur cacher. Il resta immobile un moment, le regard perdu dans la cheminée, puis prenant enfin une décision, il trempa une nouvelle fois sa plume dans l'encrier et se mit résolument à écrire. Cher Sniffle, j'espère que tu vas bien. Ici, la première semaine a été épouvantable. Je suis content que le week-end soit enfin arrivé. Nous avons un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Ombrage. Elle est presque aussi sympathique que ta mère. La raison pour laquelle je t'écris aujourd'hui, c'est que hier soir, alors que j'étais en retenue avec Ombrage, il m'est arrivé cette même chose dont je t'avais déjà parlé dans une lettre l'été dernier. Nous avons tous hâte de revoir notre très grand ami et nous espérons qu'il reviendra bientôt. Réponds-moi vite, s'il te plaît, avec toute mon affection, Harry. Harry relut la lettre à plusieurs reprises en essayant de se mettre à la place d'un observateur extérieur. Il ne voyait pas très bien comment quiconque aurait pu comprendre de quoi il parlait, ni à qui il parlait en lisant simplement cette lettre. Il espérait que Sirius comprendrait l'allusion à Hagrid et qu'il leur dirait quand on pouvait espérer son retour. Harry ne voulait pas poser la question directement de peur d'attirer l'attention sur la mission que Hagrid était peut-être en train d'accomplir pendant son absence de Poudlard. Malgré la brièveté de la lettre, il lui avait fallu beaucoup de temps pour l'écrire. Pendant qu'il l'avait rédigée, la lumière du jour s'était peu à peu glissée jusqu'au milieu de la pièce, et il entendait à présent des bruits étouffés qui provenaient des dortoirs au-dessus de sa tête. Après avoir soigneusement cacheté son parchemin, il sortit par le trou que dissimulait le portrait de la grosse dame et se dirigea vers la volière au hibou.
« Si j'étais vous, je ne prendrais pas ce chemin !»
dit alors Nick, quasi sans tête. À sa façon quelque peu insolite, le fantôme avait traversé un mur du couloir pour apparaître juste devant Harry.
« Peeves a préparé une plaisanterie très divertissante dont sera victime la première personne qui passera devant le buste de Paracels au milieu du couloir. »
Faut-il en conclure que Paracels tombera sur la tête de la personne en question ? Demanda Harry.
« En effet, « Amusant, non ?»
répondit Nick quasi sans tête d'une voix lasse.
« La subtilité n'a jamais été le point fort de Peeves. Je suis parti à la recherche du baron sanglant. Peut-être pourra-t-il empêcher cela. À bientôt, Harry !»«
C'est ça, au revoir !» dit Harry. Et au lieu de prendre à droite, il tourna à gauche, empruntant un chemin plus long mais plus sûr pour se rendre à la volière. Son moral remonta lorsqu'il passa devant les fenêtres par lesquelles il voyait le ciel d'un bleu éclatant. Une séance d'entraînement était prévue un peu plus tard. Il serait enfin de retour sur le terrain de Quidditch. Quelque chose lui effleura les chevilles. Il regarda par terre et vit Miss Teigne, la chatte grise et squelettique du concierge, qui avançait à pas furtifs. Elle tourna vers lui des yeux jaunes semblables à deux lampes, puis disparut derrière la statue de Wilfrid le mélancolique. « Je ne fais rien de mal ?» lui lança Harry. Elle avait l'air caractéristique du chat délateur qui va faire son rapport à son maître. Pourtant, Harry ne voyait pas ce qu'on pouvait lui reprocher. Il avait parfaitement le droit de monter à la volière un samedi matin. Le soleil était haut dans le ciel à présent, et lorsque Harry entra dans la volière, les fenêtres sans carreaux l'éblouirent. De larges rayons de lumière argentée traversaient en tous sens la pièce circulaire où des centaines de hiboux perchés sur des poutres s'agitaient par instants dans la clarté du matin, certains revenant tout juste d'une nuit de chasse. Le sol, couvert de paille, crissa légèrement sous ses pas lorsqu'il marcha sur les carcasses de petits animaux dévorés jusqu'à l'os. Tendant le cou, Harry essaya d'apercevoir Hedwige. « Ah, te voilà !» Il l'avait repéré tout près du plafond voûté. « Viens, j'ai une lettre pour toi. » Avec un ululement grave, elle déploya ses grandes ailes blanches et descendit se poser sur son épaule. « Bon, alors, l'adresse, c'est Sniffle, quelque part, au dehors, » dit-il en lui donnant le parchemin qu'elle prit dans son bec. « Mais en fait, » murmura-t-il sans vraiment savoir pourquoi, « la lettre est destinée à Sirius, d'accord ?» Hedwige cligna ses yeux couleur d'ambre, ce qui laissait entendre qu'elle avait compris. « Alors bon vol ?» dit Harry. Il la porta jusqu'à l'une des fenêtres. Après une amicale pression sur son bras, Hedwige s'envola dans le ciel d'une clarté aveuglante. Il la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point minuscule qui disparut bientôt. Il tourna alors son regard vers la cabane de Hagrid, qu'on voyait distinctement depuis cette même fenêtre, et qui, de toute évidence, était toujours inhabitée, avec ses rideaux tirés et sa cheminée sans fumée. Là-bas, dans la forêt interdite, les cimes des arbres oscillaient sous une légère brise. Harry les contempla en savourant la fraîcheur de l'air matinal sur son visage. Il pensait à l'entraînement de Quidditch qui l'attendait un peu plus tard. Ce fut à ce moment-là qu'il le vit. Un grand cheval ailé reptilien, semblable à ceux qui tiraient les diligences de Poudlard. Ses ailes noires et lisses, largement déployées comme celles d'un ptérodactyle, s'éleva des arbres, tel un oiseau géant et grotesque. Il décrivit un large cercle, puis replongea dans la forêt. Tout s'était passé si vite que Harry eut du mal à croire ce qu'il avait vu, mais son cœur battait frénétiquement contre ses côtes. Au même instant, la porte de la volière s'ouvrit derrière lui. Il sursauta, se retourna et vit entrer Cho Chang, qui tenait une lettre et un paquet à la main. « Salut !» dit machinalement Harry.
« Oh, salut !» dit-elle, le souffle court. « Je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un dans la volière à cette heure-ci. Je viens de m'en souvenir, il y a 5 minutes, c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. »
Elle montra le paquet.
« Ah, très bien !» dit Harry.
Il avait l'impression que son cerveau s'était bloqué. Il aurait voulu dire quelque chose de drôle, d'intéressant, mais le souvenir de cet horrible cheval ailé était trop présent dans son esprit.
« Belle journée !»
dit-il en montrant les fenêtres. Il fut tellement gêné qu'il sentit ses entrailles se ratatiner. La météo. Il ne trouvait pas d'autre sujet de conversation que la météo.
« Oui ?»
répondit Cho qui regardait autour d'elle à la recherche d'un hibou.
« Beau temps pour le Quidditch !» « Je ne suis pas du tout sorti cette semaine. Et toi ?»«
Non plus, » dit Harry. Cho avait choisi une des chouettes effraies de l'école. Elle lui parla doucement pour la faire venir sur son bras, et l'oiseau tendit obligeamment sa patte à laquelle elle attacha le paquet.
« Au fait, « Est-ce que Gryffondor a trouvé un nouveau gardien ?» demanda-t-elle.
« Oui, » répondit Harry, « c'est mon copain Ron Weasley, tu le connais ?»«
Celui qui déteste les tornades, » dit Cho avec froideur. « Et il est bon ?»«
Oui, je crois, mais je n'ai pas vu ses essais, j'étais en retenue. » Cho leva les yeux, le paquet à moitié attaché à la patte de la chouette.
« Cet ombrage est abominable, » dit-elle à voix basse. « Te donner une retenue simplement parce que tu as dit la vérité sur la façon dont il est mort. Tout le monde est au courant, la nouvelle a circulé dans toute l'école. C'était vraiment courageux de ta part de lui tenir tête comme ça. »
Les entrailles de Harry retrouvèrent si rapidement leur volume normal qu'il se demanda s'il n'allait pas se mettre à flotter dans les airs à quelques centimètres au-dessus du sol, constellé de fientes de hibou. Qui pouvait bien se soucier d'un stupide cheval volant alors que Cho venait de lui dire qu'il le trouvait vraiment courageux?
Pendant un instant, il songea à lui montrer mine de rien sa coupure à la main pendant qu'il l'aidait à attacher le colis à la patte de la chouette. Mais au moment même où cette idée très séduisante lui venait à l'esprit, la porte de la volière s'ouvrit à nouveau.
Rusard, le concierge, entra dans la pièce, la respiration sifflante. Ses joues creuses, aux veines apparentes, étaient parsemées de plaques violettes. Ses bas-joues frémissaient et ses cheveux gris voltaient autour de sa tête. De toute évidence, il avait couru jusqu'ici. Miss Teigne, qui trottait sur ses talons, leva les yeux vers les hiboux en miaulant d'un air affamé. Il y eut une grande agitation d'elle et une grosse chouette claqua du bec d'un air menaçant.
« Ha 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 !» s'exclama Rusard. Il s'avança vers Harry, ses gros pieds plats claquant sur le sol, ses joues flasques frémissantes de colère.
« On m'a dit que vous vous apprêtiez à passer une grosse commande de bombe à bouche !»
Harry croisa les bras et fixa le concierge. « Qui vous a dit que je commandais des bombes à bouse ?» Les sourcils froncés, Cho regarda successivement Harry et Rusard. La chouette, posée sur son bras, fatiguée de se tenir sur une patte, émit un ululement de protestation, mais Cho n'y prit pas garde.
« J'ai mes sources !»
dit Rusard, d'une voix sifflante qui exprimait toute sa satisfaction.
« Donnez-moi donc ce que vous aviez l'intention d'envoyer !»
Se félicitant de n'avoir pas traîné dans l'expédition de sa lettre, Harry répondit « Impossible, c'est déjà parti !»«
Parti ?»
dit Rusard, le visage crispé de rage.
« Parti !» répéta calmement Harry.
Rusard ouvrit la bouche d'un air furieux, prononça quelques mots inaudibles, puis promena son regard inquisiteur sur la robe de Harry.
« Comment puis-je être sûr que vous ne cachez rien dans votre poche ?»«
Oh, pour une raison simple !»
« Je l'ai vu l'envoyer, » dit Cho avec colère.
Rusard se tourna vers elle.
« Vous l'avez vu ?»«
Oui, je l'ai vu, »
répéta-t-elle d'un ton féroce. Il y eut un silence pendant lequel Rusard jeta un regard noir à Cho qui le lui rendit. Puis le concierge retourna vers la porte d'un pas traînant. La main sur la poignée, il s'arrêta et lança un coup d'œil menaçant à Harry.
« Si jamais je sens la moindre bombe à bouse !»
Il descendit alors l'escalier d'un pas pesant. Miss Teigne contempla une dernière fois les hiboux avec convoitise, puis se décida à le suivre. Harry et Cho échangèrent un regard.
« Merci, » dit Harry. « Pas de quoi, » répondit Cho. Le teint légèrement rosé, elle acheva d'attacher son collier à la patte de la chouette. « Tu n'as pas commandé de bombe à bouse, n'est-ce pas ?»«
Non, » dit Harry.
« Je me demande pourquoi il a cru ça, »
dit-elle en portant la chouette jusqu'à la fenêtre. Harry haussa les épaules. Il était tout aussi étonné qu'elle, même si, étrangement, il ne s'en souciait guère pour le moment. Ils sortirent ensemble de la volière. À l'entrée du couloir qui menait vers l'aile ouest du château, Cho lui dit
« Je vais par là, Un de ces jours, Harry.
Oui, à bientôt. » Elle lui sourit et s'éloigna. Harry poursuivit son chemin dans un état de ravissement silencieux. Il avait réussi à avoir toute une conversation avec elle sans se sentir gêné une seule fois.
« C'était vraiment courageux de ta part de lui tenir tête comme ça. »
Cho lui avait dit qu'il était courageux. Elle n'y en voulait pas d'avoir survécu à Cédric. Bien sûr, c'était Cédric qu'elle lui avait préféré, il le savait. Pourtant, s'il avait réussi à l'inviter au bal avant lui, tout aurait peut-être été différent. Elle avait paru sincèrement désolée d'avoir à refuser sa proposition. « Bonjour !» dit Harry d'un ton claironnant à Ron et à Hermione lorsqu'il les rejoignit à la table de Griffon d'Or. « Eh ben, qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ?» demanda Ron en le dévisageant d'un air surpris. « De jouer au Quidditch tout à l'heure ?» répondit Harry d'un ton joyeux en se servant une grande assiettée de holard. « Ah oui ?» dit Ron. Il reposa le toast qu'il était en train de manger et but une longue gorgée de jus de citrouille avant de poursuivre.
« Écoute, est-ce que ça te dirait d'y aller un peu plus tôt avec moi pour que je m'habitue un peu avant la séance, que je puisse me mettre au niveau, tu comprends ?»«
Ah bah oui, d'accord !» assura Harry.
« Eh bien, moi, je crois que tu ne devrais pas, » intervint Hermione. « Vous avez tous les deux beaucoup de retard dans vos devoirs et je pense que... »
Elle fut interrompue par l'arrivée du courrier. Comme d'habitude, un hibou moyen duc fonça vers elle la gazette du sorcier dans le bec et atterrit dangereusement près du sucrier, la patte tendue. Hermione glissa une noise dans sa bourse et parcourut la première page du journal d'un œil critique tandis que l'oiseau reprenait son vol.
« Rien d'intéressant ?» demanda Ron.
Harry eut un sourire. Il savait que Ron cherchait surtout à détourner la conversation sur un autre sujet que les devoirs.
« Non, » soupira Hermione, « juste des idioties sur la bassiste des bizarres sisters qui va se marier. »
Elle ouvrit le journal et disparut derrière. Harry se servit une autre assiette de houlard pendant que Ron contemplait les fenêtres de la grande salle, l'air un peu préoccupé.
« Oh mais attends !» dit soudain Hermione. « Oh non ! Sirius ! Qu'est-ce qui s'est passé ?»
s'exclama Harry en lui arrachant le journal d'un geste si violent qu'il le déchira par le milieu, chacun gardant une moitié dans les mains.
« Le ministère de la magie a reçu d'une source digne de foi une information selon laquelle Sirius Black, l'assassin de sinistre réputation, blablabla, se cacherait actuellement à Londres. »
lut Hermione dans un murmure angoissé. « Ça, je suis prêt à parier n'importe quoi que c'est un coup de Lucius Malfoy, » dit Harry à voix basse, le regard furieux. « Il a dû reconnaître Sirius sur le quai de la gare.
Quoi ?» s'écria Ron affolé. « Tu ne m'as pas dit ?»
ordonnèrent les deux autres d'une même voix.
Le ministère a le devoir d'avertir l'ensemble de la communauté des sorciers que Black est un homme très dangereux, a tué 13 personnes, s'est évadé d'Azkaban. Des imbécilités habituelles,
conclut Hermione qui posa sur la table sa moitié de journal en regardant Harry et Ron d'un air effaré.
Il ne pourra certainement plus quitter la maison,
murmura-t-elle.
Dumbledore lui avait pourtant dit de ne pas sortir.
Harry, la mine sombre, jeta un coup d'œil au morceau de la gazette qu'il avait déchiré. La plus grande partie de la page était consacrée à une publicité en faveur de Madame Guipure, prêt-à-porter pour mages et sorciers. La boutique proposait des articles en solde.
« Hé !»
dit soudain Harry en étalant la page sur la table.
« Regardez !»« J'ai pas besoin de robe, j'ai tout ce qu'il me faut, » dit Ron. « Non, pas ça ! Regardez là, cet entrefilet !»
Ron et Hermione se penchèrent un peu plus. L'article ne faisait que quelques lignes tout en bas d'une colonne. Il avait pour titre « Cambriolage au ministère ». Sturgis Podmore, 38 ans, domicilié aux 2 Laburnum Gardens à Clapham, a été déféré devant le Magen Magot pour effraction et tentative de vol au ministère de la magie le 31 août dernier. Podmore a été appréhendé par le sorcier vigile du ministère Eric Munch, qui l'a surpris à 1h du matin alors qu'il essayait de forcer une porte de haute sécurité. Podmore, qui a refusé de présenter sa défense, a été condamné pour ses 2 chefs d'accusation à 6 mois de prison au pénitencier d'Azkaban.
Sturgis Podmore, dit lentement Ron. C'est bien ce type qui a l'air d'avoir un toit de chaume sur la tête, non ? Il fait partie de leur... « Ron ! Chut !»
l'interrompit Hermione en jetant un regard terrifié autour d'elle.
« 6 mois à Azkaban ?»
murmura Harry choqué.
« Simplement pour avoir essayé d'ouvrir une porte ?»« Ne sois pas stupide. Ce n'était pas seulement pour ça. Que pouvait-il faire à 1h du matin au ministère de la magie ?»
souffla Hermione.
« Tu crois qu'il était en mission pour le compte de l'ordre ?» chuchota Ron. « Attendez un peu. » dit lentement Harry. Sturgis devait nous accompagner l'autre jour, vous vous souvenez ?
Les deux autres se tournèrent vers lui.
Oui, il devait faire partie de notre escorte pour aller à King's Cross, c'est bien ça. Et Maugrey n'était pas content parce qu'il n'est pas venu. Donc, il n'était pas en mission pour eux.
Peut-être ne savait-il pas encore qu'il s'était fait prendre,
dit Hermione.
Ou peut-être que c'est une machination,
s'exclama Ron surexcité.
Non, attendez,
poursuivit-il en baissant brusquement la voix sous le regard menaçant d'Hermione.
Le ministère le soupçonne d'être un allié de Dumbledore. Alors il l'attire là-bas, mais en fait, il n'a pas du tout essayé de forcer cette porte. C'était tout simplement un piège pour pouvoir l'arrêter.
Il y eut un silence pendant lequel Harry et Hermione réfléchirent à cette hypothèse. Harry la trouvait un peu tirée par les cheveux, mais elle semblait avoir fait plus grande impression sur Hermione.
« Vous savez, je ne serais pas surprise que ce soit vrai. »
Elle replia sa moitié du journal d'un air songeur. Lorsque Harry reposa son couteau et sa fourchette, elle paraissait sortir d'une rêverie.
« Bon, je pense qu'on devrait s'occuper d'abord du devoir pour Chourave sur les arbrisseaux auto-fertilisants. Avec un peu de chance, nous aurons peut-être le temps de commencer celui pour McGonagall sur le sortilège d'Inanimatus Apparitus avant l'heure du déjeuner. »
Harry éprouva un vague sentiment de culpabilité à la pensée de la pile de devoirs qui l'attendait là-haut, mais le ciel était d'un bleu limpide, enivrant, et il n'était pas monté sur son éclair de feu de la semaine.
« En fait, on pourrait très bien s'occuper de tout ça ce soir, »
dit Ron alors qu'il descendait en compagnie de Harry la pelouse en pente douce qui menait au terrain de Quidditch. Leur balai sur l'épaule, ils entendaient encore résonner à leur oreille les terribles prédictions d'Hermione qui les avait menacées d'un échec aux buses.
« D'ailleurs, on a encore demain, hein ? Elle se fait trop de soucis pour le travail, c'est ça l'ennui avec elle, hein ?»
Après un moment de silence, il ajouta d'un ton légèrement plus anxieux
« Tu crois qu'elle parlait sérieusement quand elle a dit qu'elle ne nous laisserait pas copier sur elle ?»«
Oui, je crois, » répondit Harry. « Mais le Quidditch aussi, c'est important. Il faut que nous nous entraînions si nous voulons rester dans l'équipe. »«
Ah ben oui, c'est vrai !» dit Ron, ragaillardi. « Et nous aurons bien assez de temps pour tout faire !»
Lorsqu'ils approchèrent du terrain de Quidditch, Harry regarda sur sa droite les arbres de la forêt qui oscillaient d'un air sinistre. Aucune créature ne s'en échappa. Le ciel était vide, à part les quelques hiboux qui tournoyaient autour de la volière. Il avait déjà suffisamment de soucis en tête et le cheval volant ne le menaçait en rien. Il décida donc de le chasser de son esprit. Ils allèrent prendre des balles dans les vestiaires et se mirent au travail. Ron gardait les trois buts, pendant que Harry, dans le rôle du poursuiveur, essayait d'envoyer le soifle à travers les anneaux. Harry trouva Ron assez doué. Il était parvenu à bloquer les trois quarts de ses tirs et plus le temps passait, plus son jeu s'améliorait. Au bout de 2 heures, ils retournèrent au château pour le déjeuner, au cours duquel Hermione leur fit clairement comprendre qu'elle les considérait comme des irresponsables. Puis ils revinrent sur le terrain de Quidditch, où allait commencer la véritable séance d'entraînement. Lorsqu'ils entrèrent dans les vestiaires, tous leurs coéquipiers étaient déjà là, à l'exception d'Angelina.
« Ça va, Ron ?» demanda George en lui lançant un clin d'œil.
« Oui, » répondit Ron, qui était devenu de moins en moins bavard à mesure qu'il approchait du terrain.
« Prêt à nous en mettre plein la vue, hein, le petit préfet ?»
dit Fred, dont la tête ébouriffée émergea du col de sa robe avec un sourire légèrement moqueur.
« Ferme-la !»
répliqua Ron, le visage de marbre. C'était la première fois qu'il revêtait la tenue de l'équipe. Pour une ancienne robe d'Olivier Dubois, qui avait les épaules plus larges que lui, elle lui allait plutôt bien.
« Ok, tout le monde, allons-y !»
lança Angelina, qui s'était déjà changée et sortait du bureau réservé au capitaine de l'équipe.
« Alicia et Fred, si vous pouviez nous apporter la boîte de balles ?»« Ah, je voulais aussi vous dire qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vont venir nous voir jouer, mais n'y faites surtout pas attention, d'accord ?»
En entendant le ton faussement dégagé d'Angelina, Harry n'eut pas trop de mal à deviner l'identité de ses spectateurs indésirables. Et en effet, lorsqu'ils arrivèrent sur le terrain illuminé de soleil, ils furent accueillis par une tempête de sifflets et de quolibets. Les joueurs de Serpentard, accompagnés de leur suite habituelle, s'étaient installés à mi-hauteur des gradins vides, l'écho de leur voix résonnant avec force tout autour du stade.
« C'est quoi le truc qui sert de balai, Wesley ?»
lança Malfoy de sa voix traînante.
« Qui donc a eu l'idée d'ensorceler cette vieille bûche moisie pour essayer de la faire voler ?»
Un mélange de rires gras et suraigus s'éleva du banc où Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson avaient pris place. Ron monta sur son balai et donna un coup de pied pour prendre son envol. Derrière lui, Harry, qui avait décollé à son tour, vit ses oreilles devenir écarlates.
N'y fais pas attention, lui dit-il en accélérant pour venir à sa hauteur. On verra bien qui rigolera le jour où on jouera contre eux.
Voilà l'attitude qui me plaît, Harry,
approuva Angelina. Elle décrivit un cercle autour d'eux, le soifle sous le bras, puis vint se placer en vol stationnaire devant son équipe.
Alors écoutez-moi tout le monde, on va commencer par quelques passes pour s'échauffer toute l'équipe, s'il vous plaît.
Hé, Johnson, c'est quoi cette coiffure ?
Hurla Pansy Parkinson sur les gradins.
On dirait que t'as des vers de terre qui te sortent de la tête !
Angelina rejeta en arrière ses longs cheveux tressés et poursuivit, très calmement.
Mettez-vous en place et voyons ce qu'on peut faire.
Harry se détacha du groupe et alla se poster à l'extrémité du terrain. Ron se dirigea vers les buts d'en face. Angelina leva le soifle d'une main et le lança avec force à Fred, qui le passa à George, qui le passa à Harry, qui le passa à Ron, qui le laissa tomber. Menés par Malfoy, les Serpentards se mirent à hurler de rire. Ron fonça en piqué pour attraper le soifle, avant qu'il ne touche le sol et essaya de remonter en chandelle. Mais il rata sa manœuvre et glissa de côté sur son balai, avant de revenir tant bien que mal à l'altitude de jeu, le visage écarlate. Harry vit Fred et George échanger des regards, mais contrairement à leur habitude, aucun des deux ne fit de commentaire, ce dont il leur fut reconnaissant.
« Passe la balle, Ron !»
lança Angelina comme si rien ne s'était passé. Ron lança le soifle à Angelina, qui passa derrière elle à Harry, qui passa à George.
« Hé, Potter, comment va ta cicatrice ?» s'écria Malfoy. « Tu crois pas que tu devrais te coucher? Ça fait bien une semaine que t'es pas allé à l'infirmerie. C'est un record pour toi, non ?»
George passa à Angelina, qui fit une passe de revers à Harry, qui ne s'y attendait pas, mais parvint à rattraper le soifle du bout des doigts. Il le passa très vite à Ron, qui se précipita et le rata de quelques centimètres.
« Ron, enfin !»
s'impatienta Angelina tandis qu'il redescendait en piqué pour attraper le soifle.
« Fais un peu attention !»
Lorsque Ron revint à l'altitude de jeu, il aurait été difficile de dire si c'était le soifle ou son visage qui était le plus écarlate. Malfoy et les autres Serpentards recommencèrent à hurler de rire. À sa troisième tentative, Ron rattrapa le soifle. Sous l'effet du soulagement sans doute, il le relança avec tant d'enthousiasme que le soifle passa droit entre les bras tendus de Cathy et la heurta violemment en plein sur le nez.
« Excuse-moi !»
grogna Ron en fonçant vers elle pour voir s'il lui avait fait mal.
« Reprends ta place, elle n'a rien !»
aboya Angelina.
« Mais quand tu passes le soifle à une de tes coéquipières, n'essaie pas de la faire tomber de son balai, d'accord? On a des cognards pour ça !»
Le nez de Cathy saignait. En bas, les Serpentards tapaient du pied en lançant leurs habituels quolibets. Fred et George s'approchèrent ensemble de Cathy.
« Tiens, prends ça !»
lui dit Fred. Il sortit de sa poche une sorte de petit bonbon violet qu'il lui tendit.
« Dans un instant, t'auras plus rien. »«
Bien !» dit Angelina d'une voix sonore. « Fred et George, allez chercher vos battes et un cognard. Ron, va te mettre en place devant les buts. Harry, tu relâcheras le vif d'or quand je te le dirai. Alors, évidemment, on essaie de marquer des buts à Ron. »
Harry fonça dans le sillage des jumeaux pour aller chercher le vif d'or.
« Ron joue comme une patate, non ?»
marmonna George. Ils avaient atterri tous les trois devant la boîte à balles qu'ils ouvrirent pour y prendre l'un des deux cognards ainsi que le vif d'or.
« Il a simplement le trac, » dit Harry. « Il se débrouillait très bien quand je me suis entraîné avec lui ce matin. « J'espère qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même trop tôt, » dit Fred d'un air sombre.
Ils redécollèrent en direction du terrain. Au coup de sifflet d'Angelina, Harry lâcha le vif d'or et Fred et George libérèrent le cognard. À partir de cet instant, Harry ne sut plus très bien ce que faisaient les autres. Sa tâche consistait à attraper de nouveau la minuscule balle dorée qui voletait en tous sens. L'exploit exigeait une rapidité, une adresse exceptionnelle et rapportait 150 points d'un coup à l'équipe de l'attrapeur victorieux. Harry accéléra, zigzagant parmi les poursuiveurs. L'air tiède de l'automne lui fouettait le visage et les cris lointains des Serpentards qui résonnaient à ses oreilles paraissaient à présent bien dérisoires. Mais un autre coup de sifflet l'obligea trop tôt à son goût à s'arrêter une nouvelle fois.
« Stop ! Stop ! Stop ! » hurla Angelina. « Ron, tu ne couvres pas le but central !»
Harry se tourna vers Ron qui se tenait devant l'anneau de gauche en laissant les deux autres sans aucune protection.
« Oh, excuse-moi !»
« Tu n'arrêtes pas de changer de place pendant que tu surveilles les poursuiveurs !» dit Angelina. « Ou bien tu restes au centre jusqu'à ce que tu aies à bouger pour défendre un but, ou bien tu tournes régulièrement autour des anneaux, mais ne te balades pas vaguement d'un seul côté. C'est comme ça que tu as encaissé les trois derniers buts.
« Excuse-moi !»
répéta Ron, son visage écarlate brillant comme un phare dans le ciel d'un bleu étincelant. Et Cathy, tu pourrais pas arrêter de saigner du nez ?»«
Ça devient de pire en pire, »
répondit Cathy d'une voix pâteuse en essayant d'arrêter le flot de sang avec sa manche. Harry jeta un coup d'œil à Fred, qui vérifiait le contenu de ses poches d'un air inquiet. Il le vit sortir quelque chose de violet, qu'il examina un instant. Puis Fred se tourna vers Cathy, visiblement frappée d'horreur.
« Bon, on essaye une nouvelle fois !» dit Angelina.
Elle n'accordait apparemment aucune attention au serpentard qui scandait à présent.
« Les Gryffondeurs vont perdre ! Les Gryffondeurs vont perdre !»
Mais on sentait malgré tout une certaine raideur dans la façon dont elle se tenait sur son balai. Cette fois, ils avaient à peine volé pendant 3 minutes que le sifflet d'Angelina retentit à nouveau. Harry, qui venait de repérer le vif d'or près des buts d'en face, s'immobilisa manifestement exaspéré.
« Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-il d'un ton irrité à Alicia qui se trouvait à côté de lui.
« C'est Cathy !»
répondit-elle. Harry vit alors Angelina, Fred et George voler à toute vitesse vers Cathy. Il se hâta d'aller les rejoindre en compagnie d'Alicia. De toute évidence, Angelina avait interrompu l'entraînement juste à temps. Cathy avait à présent le teint crayeux et ruisselait de sang.
« Il faut l'envoyer à l'infirmerie !» dit Angelina.
On s'en occupe, assura Fred. Elle a peut-être avalé par erreur des graines de sanguinole. En tout cas, on peut pas continuer sans batteur et avec un poursuiveur en moins,
dit Angelina d'un air renfrogné, tandis que Fred et George filaient vers le château en portant Cathy chacun d'un côté.
Venez, on retourne se changer.
Les serpentards continuèrent de scander leurs insultes pendant que le reste de l'équipe prenait la direction des vestiaires.
Comment ça s'est passé, l'entraînement?
Demanda Hermione d'un ton plutôt froid. Lorsque Harry et Ron revinrent une demi-heure plus tard dans la salle commune.
« C'était... »
commença Harry.
« Complètement lamentable !»
acheva Ron d'une voix caverneuse en se laissant tomber dans un fauteuil près d'Hermione. Elle leva les yeux vers lui et sa froideur sembla fondre aussitôt.
« C'était seulement la première séance, » dit-elle pour le consoler. « Il te faudra forcément du temps pour... »«
Qui a dit que c'était lamentable à cause de moi ?»
répliqua sèchement Ron.
« Personne ?»
répondit Hermione, prise au dépourvu.
« Je pensais... »«
Tu pensais que je serais fortement nul ?»«
Non, bien sûr que non. Tu comprends, tu m'as dit toi-même que c'était lamentable, alors j'ai... »«
Je vais me mettre à mes devoirs !» coupa Ron d'un ton furieux.
Il s'éloigna à grands pas vers l'escalier qui menait au dortoir des garçons et disparut. Hermione se tourna vers Harry.
« Il était vraiment lamentable ?»«
Non. » répondit Harry avec une indéfectible loyauté. Hermione haussa les sourcils.
« Bien sûr, il aurait peut-être pu jouer mieux, » marmonna-t-il.
« Mais comme tu l'as dit, ce n'était que la première séance. »
Ni Ron ni Harry n'avancèrent beaucoup dans leurs devoirs ce soir-là. Harry savait que Ron était trop préoccupé par sa mauvaise performance au cours de l'entraînement et lui-même avait du mal à chasser de son esprit les voix des serpentards qui scandaient
« Les Gryffondors vont perdre ! Les Gryffondors vont perdre !»
Ils passèrent tout leur dimanche dans la salle commune, plongés dans leurs livres, tandis que la pièce se remplissait puis se vidait autour d'eux. Le temps était toujours beau et clair, et les autres Gryffondors avaient préféré sortir dans le parc pour profiter de ce qui serait peut-être la dernière journée ensoleillée de l'année. Le soir venu, Harry eut l'impression qu'on lui avait cogné le cerveau contre la boîte crânienne.
« Tu sais, on devrait peut-être essayer de travailler davantage au cours de la semaine, » murmura-t-il à Ron.
Après avoir rangé la longue dissertation qu'ils avaient rédigée pour le professeur McGonagall sur le sortilège d'Inanimatus Apparitus, ils se penchèrent misérablement sur le devoir tout aussi long et difficile qu'ils devaient rendre au professeur Sinistra sur les nombreuses lunes de Jupiter.
« Ouais, »
admit Ron. Il frotta ses yeux rougis et jeta dans le feu le cinquième morceau de parchemin qu'il venait de raturer.
« Écoute, il faudrait demander à Hermione si elle veut bien nous laisser jeter un coup d'œil sur ce qu'elle a fait. »
Harry regarda Hermione assise un peu plus loin, patte en rond sur ses genoux. Elle bavardait gaiement avec Ginny, tandis que des aiguilles étincelaient devant son visage en tricotant des chaussettes informes destinées aux elfes. « Non, » dit Harry d'un ton lourd. « Elle n'acceptera jamais. » Ils continuèrent donc à travailler tandis que le ciel s'assombrissait peu à peu derrière les fenêtres. Lentement, la foule rassemblée dans la pièce commune commença à s'éclaircir à nouveau. À 11h30, Hermione s'approcha d'eux en bâillant.
« Ah, vous avez bientôt fini ?»«
Non, » répliqua Ron d'un ton tranchant.
La plus grande lune de Jupiter, c'est Ganymède, pas Callisto,
dit-elle en montrant par-dessus l'épaule de Ron une ligne de son devoir.
Et c'est sur Io qu'il y a des volcans.
Merci, grogna Ron, en rectifiant les phrases offensantes pour les lunes de Jupiter.
Désolé, je voulais seulement... Bon, écoute, si t'es simplement venu pour critiquer... Ron, j'ai pas le temps d'écouter un sermon, d'accord, Hermione? Je suis jusqu'au coudant. Mais non, c'est pas ça. Regardez.
Hermione montrait la fenêtre la plus proche. Harry et Ron tournèrent la tête. Un magnifique hibou moyen-duc se tenait sur le rebord, les yeux fixés sur Ron.
« Ce serait pas Hermès ?»
demanda Hermione stupéfaite.
« Mais si ma parole, c'est lui !»
dit Ron à voix basse. Il jeta sa plume et se leva.
« Je me demande bien pourquoi Percy m'écrit. »
Il se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. Hermès entra dans la pièce, se posa sur le devoir de Ron et tendit sa patte à laquelle un parchemin était attaché. Ron prit la lettre et le hibou repartit aussitôt, laissant des traces d'encre sur le dessin que Ron avait fait de Io, la lune de Jupiter.
C'est bien l'écriture de Percy, dit Ron.
Il se laissa retomber dans son fauteuil et regarda l'adresse rédigée sur le parchemin. Ronald Weasley, Maison Gryffondor, Poudlard. Puis il leva les yeux vers les deux autres.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ouvre-la, dit Hermione avec impatience. Harry approuva d'un signe de tête. Ron déroula le parchemin et commença à lire. À mesure qu'il parcourait les lignes, son visage se renfrognait de plus en plus. Lorsqu'il eut fini, il paraissait dégoûté. Il tendit alors la lettre à Harry et à Hermione, qui la lurent en même temps, penchés l'un vers l'autre.
« Cher Ron, je viens d'apprendre du ministère de la magie en personne qui le tient de ton nouveau professeur, Dolores Ombrage, que tu viens d'être nommé préfet à Poudlard. J'ai été très agréablement surpris d'entendre cette nouvelle et je dois commencer par t'adresser toutes mes félicitations. J'avoue que j'ai toujours eu peur de te voir prendre ce que l'on pourrait appeler la voix de Fred et George, plutôt que de suivre mes traces. Aussi, peux-tu facilement imaginer mon soulagement quand j'ai su que tu avais cessé de mépriser l'autorité et décidé d'endosser de véritables responsabilités. Mais je veux faire plus que t'exprimer de simples félicitations. Ron, je souhaite également t'offrir quelques conseils, et c'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre le soir, plutôt que par le courrier du matin. J'espère que tu pourras la lire loin des regards indiscrets et des questions embarrassantes. D'après ce que le ministre a laissé échapper, en m'annonçant que tu avais été nommé préfet, je conclus que tu vois toujours très souvent Harry Potter. Je dois t'avertir, Ron, que rien ne peut menacer davantage ton insigne de préfet qu'une fraternisation prolongée avec ce garçon. Je sais, bien sûr, que tu seras surpris de lire ces lignes. Tu me diras sans doute que Potter a toujours été le chouchou de Dumbledore. Mais j'estime de mon devoir de te prévenir que Dumbledore ne sera peut-être plus très longtemps en poste à Poudlard et que les personnes qui comptent aujourd'hui ont une façon très différente et probablement beaucoup plus juste de juger le comportement de Potter. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais si tu prends la peine de lire la Gazette du Sorcier demain, tu auras une assez bonne idée de la direction dans laquelle souffle le vent et on verra si tu reconnais la marque de ton serviteur. Sérieusement, Ron, il ne faut pas que tu sois mis dans le même sac que Potter. Cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour ton avenir et je parle également de ta vie après l'école. Comme tu dois déjà le savoir, puisque notre père l'a accompagné au tribunal, Potter a été convoqué cet été à une audience disciplinaire devant le Maguen Magot au complet, et il n'en est pas sorti sans dommage. Si tu veux mon avis, il n'a réussi à échapper aux mailles du filet que grâce à des finasseries juridiques, et nombre de personnes avec lesquelles je me suis entretenu restent convaincues de sa culpabilité. Peut-être as-tu peur de rompre les liens avec Potter. Je sais qu'il n'est pas très équilibré, et qu'il lui arrive, autant que je le sache, d'être violent. Mais si tu as quelque souci que ce soit à ce sujet, ou si tu as remarqué dans son comportement quelque chose d'inquiétant, je te conjure d'aller en parler à Dolores Ombrage, une femme véritablement charmante qui ne sera que trop heureuse de te conseiller, tu peux m'en croire. Voilà qui m'amène au deuxième conseil que je voulais te donner. Comme je te l'ai laissé entendre, les jours de Dumbledore à Poudlard pourraient bien être comptés. Ce n'est pas à lui que tu dois manifester ta fidélité, Ron, mais à l'école et au ministère. Je regrette infiniment d'apprendre que jusqu'à présent, le professeur Ombrage ne rencontre guère de coopération de la part des autres professeurs dans ses efforts pour mettre en œuvre les changements que le ministère désire si ardemment introduire à Poudlard, bien que sa tâche puisse être facilitée à compter de la semaine prochaine. Là encore, tu en sauras plus en lisant la Gazette du Sorcier demain. Je te dirai simplement ceci. Un élève qui montre sa volonté d'aider le professeur Ombrage aujourd'hui pourrait se retrouver en bonne position pour devenir préfet en chef dans 2 ans. Je regrette de n'avoir pas pu te voir davantage cet été. Critiquer nos parents me chagrine profondément. Mais j'ai bien peur qu'il me soit impossible de vivre plus longtemps sous leur toit tant qu'ils continueront à fréquenter la redoutable bande qui tourne autour de Dumbledore. Si tu écris à maman, tu peux lui dire qu'un certain Sturgis Podmore, qui est un grand ami de Dumbledore, a été récemment envoyé à Azkaban pour avoir tenté de cambrioler le ministère. Voilà qui l'aidera peut-être à ouvrir les yeux sur le genre de délinquant qu'il côtoie. Je m'estime, pour ma part, très heureux d'avoir échappé à la honte d'être associé à de tels personnages. Le ministre ne saurait être plus aimable avec moi, et j'espère vraiment, Ron, que tu ne laisseras pas les liens familiaux te dissimuler la nature erronée des croyances et des actions de nos parents. Je souhaite sincèrement qu'avec le temps, ils comprennent à quel point ils se sont trompés, et je serai bien entendu tout disposé à accepter leurs excuses lorsque ce jour viendra. Réfléchis très attentivement, s'il te plaît, à ce que je t'ai dit, particulièrement ce qui concerne Harry Potter, et reçois à nouveau mes très sincères félicitations pour ta nomination au poste de préfet. Ton frère, Percy.
Harry leva les yeux vers Ron.
« Bon, eh ben, »
dit-il en s'efforçant d'adopter le ton de la plaisanterie, « si tu veux... »
Comment dit-il déjà ?
Il regarda la lettre de Percy.
« Ah oui, c'est ça. Rompre les liens avec moi, je te promets que je ne deviendrai pas violent. »«
Rends-moi ça, » demanda Ron la main tendue.
« C'est vraiment, »
dit-il d'une voix saccadée tandis qu'il déchirait en deux la lettre de Percy,
« le plus grand... »
Il la déchira en 4,
crétin.
Il la déchira en 8, du monde. Puis il jeta les morceaux de parchemin dans le feu.
« Allez, viens, il faut finir ça avant l'aube, »
dit-il vivement à Harry en reprenant le devoir destiné au professeur Sinistra. Hermione regarda Ron avec une étrange expression.
« Allez, donne, »
dit-elle soudain.
« Quoi ?»
s'étonna Ron.
« Donnez-moi vos devoirs. Je vais les regarder, les corriger, » dit-elle.
« Tu parles sérieusement ?»«
Oh, Hermione, tu nous sauves la vie !»
dit Ron.
« Qu'est-ce que ce pourrait ?» Tu pourrais dire, par exemple, « Nous promettons de ne plus jamais accumuler un tel retard dans nos devoirs. »
répondit-elle en tendant les deux mains pour prendre leur copie. Mais en même temps, son expression était légèrement amusée.
« Merci mille fois, Hermione, » dit Harry d'une petite voix.
Il lui donna son devoir et retomba dans son fauteuil en se frottant les yeux. Il était maintenant plus de minuit et ils étaient seuls dans la salle commune. On n'entendait que le crissement de la plume d'Hermione qui raturait des phrases ici ou là et le bruissement des pages qu'elle tournait en vérifiant certaines données dans les livres étalés sur la table. Harry était épuisé. Il ressentait également un étrange sentiment de vide, un peu nauséeux, qui n'avait rien à voir avec la fatigue mais plutôt avec la lettre dont les morceaux noircis se consumaient à présent au milieu des flammes. Il savait que la moitié des élèves de Poudlard le trouvaient bizarre et même fou. Il savait que la Gazette du Sorcier avait fait pendant des mois des allusions narquoises à son sujet. Mais le voir écrit ainsi de la main de Percy, savoir que Percy conseillait à Ron de le laisser tomber et même d'aller raconter des histoires sur lui à Ombrage, rendait la situation beaucoup plus réelle à ses yeux que n'importe quoi d'autre. Il connaissait Percy depuis 4 ans. Il avait passé les vacances d'été dans sa maison, partagé avec lui une tente pendant la Coupe du Monde de Quidditch, et Percy lui avait même donné la note maximum à l'issue de la 2e tâche du tournoi des 3 sorciers l'année précédente. Pourtant, aujourd'hui, Percy pensait qu'il était un déséquilibré et pouvait même se montrer violent. Avec un élan d'affection pour son parrain,
Il songea que Sirius était la seule personne qui pouvait vraiment comprendre ce qu'il ressentait en cet instant, car il se trouvait dans une situation semblable. Presque tout le monde, chez les sorciers, le considérait comme un redoutable assassin et l'un des plus fidèles partisans de Voldemort. Et depuis 14 ans, il devait vivre en sachant cela. Harry cligna des yeux. Il venait de voir dans le feu quelque chose qui n'aurait pas dû y être. Une image lui était apparue comme dans un éclair, puis s'était aussitôt volatilisée. Non, ce ne pouvait être... Son imagination l'avait abusé parce qu'il pensait à Sirius.
« Bon, alors écris ça, »
dit Hermione à Ron. Elle lui donna son devoir et une feuille recouverte de sa propre écriture.
« Ensuite, tu ajouteras la conclusion que j'ai rédigée pour toi. » « Hermione, tu es vraiment la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, » dit Ron, d'une voix faible. « Et si jamais de me montrer à nouveau grossier avec toi,
je saurais que tu as retrouvé ton état normal, »
acheva Hermione.
« Harry, ce que tu as écrit est très bien, à part la fin. Tu as sans doute mal entendu ce que disait le professeur Sinistra. Le satellite de Jupiter, qu'on appelle Europe, est recouvert de glace, pas de garce. Harry ?»
Harry avait glissé de son fauteuil et s'était agenouillé sur le vieux tapis brûlé, le regard fixé sur les flammes.
« Harry, » dit Ron d'une voix hésitante, « qu'est-ce que tu fais par terre ?»«
Je viens de voir la tête de Sirius dans le feu. » Harry avait dit cela d'une voix très calme. Après tout, il avait déjà vu la tête de Sirius dans cette même cheminée l'année précédente, et il lui avait parlé. Mais cette fois, il n'en était pas absolument sûr. Elle avait disparu si vite.
« La tête de Sirius ?» répéta Hermione. « Tu veux dire, comme le jour où il a voulu te parler pendant le tournoi des trois sorciers ? Mais je ne pourrais plus faire ça maintenant. Ce serait trop... Sirius !»
Elle sursauta en regardant le feu. Ron laissa tomber sa plume. Sous leurs yeux, au beau milieu des flammes qui dansaient dans l'âtre, la tête de Sirius venait d'apparaître avec ses longs cheveux noirs qui encadraient son visage souriant.
« Je commençais à craindre que vous n'alliez vous coucher avant que les autres soient partis, » dit-il. « J'ai vérifié toutes les heures. »«
Tu veux dire que toutes les heures tu as passé ta tête dans le feu ?»
s'étonna Harry en riant à moitié.
« Juste quelques secondes pour voir si la voie était libre. »«
Et si on vous avait surpris ?»
dit Hermione d'une voix angoissée.
« Je crois qu'il y a une fille de première année d'après sa tête qui a dû m'apercevoir tout à l'heure. « Mais ne t'inquiète pas, » dit Sirius précipitamment en voyant Hermione plaquer une main contre sa bouche.
« J'étais déjà parti quand elle a voulu regarder de plus près. Elle a sans doute pensé que j'étais une bûche avec une drôle de forme ou quelque chose comme ça. »«
Mais Sirius, c'est un risque énorme !»
commença Hermione.
« On dirait Molly, » répliqua Sirius. C'était la seule façon de répondre à la lettre de Harry sans recourir à un code. Les codes, on peut les percer.
En entendant parler de la lettre de Harry, Hermione et Ron tournèrent tous deux les yeux vers lui.
« Tu ne nous avais pas dit que tu avais écrit à Sirius ?»
s'exclama Hermione d'un ton accusateur.
« J'ai oublié, »
assura Harry, ce qui était parfaitement exact. Sa rencontre avec Cho, dans la volière, avait chassé de son esprit tout ce qui s'était passé avant.
« Ne me regarde pas comme ça, Hermione. Il était impossible que quiconque y découvre la moindre information. Pas vrai, Sirius ?»«
En effet. Elle était très très bien, » répondit Sirius avec un sourire. « Mais il faut qu'on se dépêche au cas où quelqu'un viendrait nous déranger. Ta cicatrice. »«
Quoi ? Qu'est-ce que... »
commença Ron, mais Hermione l'interrompit.
« On te racontera plus tard. Continuez, Sirius. »
« Je sais que ce n'est pas drôle quand ça fait mal, mais nous pensons qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » « Elle est restée douloureuse toute l'année dernière, non ?»«
Oui, et Dumbledore a dit que ça arrivait chaque fois que Voldemort éprouvait une très forte émotion, » répondit Harry, indifférent comme toujours aux grimaces de Ron et d'Hermione. « Alors peut-être que le soir où j'avais cette retenue, il était très en colère ou je ne sais quoi ?»«
Maintenant qu'il est de retour, la douleur reviendra plus souvent, » dit Sirius.
« Alors tu penses que ça n'a rien à voir avec le fait qu'Ombrage m'ait touché ?» demanda Harry.
« J'en doute, » répondit Sirius. « Je la connais de réputation et je suis sûr que ce n'est pas une mange-mort. »«
Elle est suffisamment ignoble pour en être une, » dit sombrement Harry.
Ron et Hermione approuvèrent d'un vigoureux signe de tête.
«
Oui, mais le monde ne se divise pas entre braves gens et mange-morts, fit remarquer Sirius avec un sourire désabusé. Je sais bien qu'elle est épouvantable. Vous devriez entendre Rémus quand il en parle.
Lupin la connaît ? Demanda précipitamment Harry en se rappelant qu'Ombrage avait parlé lors de son premier cours de certains hybrides particulièrement dangereux.
« Non, » dit Sirius, « mais il y a 2 ans, elle a rédigé quelques textes de loi anti-loup-garou qui lui interdisent pratiquement de trouver du travail. »
Harry se souvint que Lupin lui avait paru plus misérable que jamais ces temps derniers et son aversion pour Ombrage n'en fut que renforcée.
« Qu'est-ce qu'elle a contre les loups-garous ? »
demanda Hermione avec colère.
« J'imagine qu'elle en a peur, » répondit Sirius qui souriait devant son indignation. « Apparemment, elle déteste les hybrides. L'année dernière, elle a fait campagne pour qu'on recense les êtres de l'eau et qu'on les marque. Vous vous rendez compte ? Perdre son temps et son énergie à persécuter les êtres de l'eau, alors que des immondices comme créatures ne sont pas inquiétés. »
Ron éclata de rire, mais Hermione parut outrée. «
Sirius ! »
s'exclama-t-elle d'un ton de reproche.
« Si vous faisiez quelques efforts avec créature, je suis sûr qu'il réagirait favorablement. Vous êtes le dernier membre de la famille qui lui reste. Et le professeur Dumbledore a dit... »«
Alors, comment se passent les cours d'Ombrage ?» coupa Sirius. « Elle vous apprend à tuer les hybrides ?»«
Oh non !» répondit Harry, indifférent à l'expression offensée d'Hermione, interrompue dans sa défense de créature. « Elle ne veut pas que nous fassions de la magie. »
« On passe notre temps à lire ce stupide manuel, » dit Ron.
« Oui, ce n'est pas étonnant, » répondit Sirius. « D'après nos informations au sein du ministère, Fudge ne veut pas qu'on vous entraîne au combat. »«
Qu'on nous entraîne au combat ?» répéta Harry incrédule. « Qu'est-ce qu'il croit ? On veut devenir une armée ?»«
C'est exactement ce qu'il pense, » dit Sirius. « Ou plutôt, il pense que c'est Dumbledore qui essaye de former sa propre armée pour s'emparer du ministère de la magie. »
Il y eut un moment de silence, puis Ron reprit. « C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Même Luna Lovegood ne dit pas des trucs pareils.
« Alors on nous empêche d'apprendre la défense contre les forces du mal parce que Fudge a peur qu'on utilise des sortilèges contre le ministère ?»
dit Hermione furieuse.
« En effet, » répondit Sirius. « Fudge pense que Dumbledore ne reculera devant rien pour prendre le pouvoir. Il devient chaque jour un peu plus paranoïaque. Il finira par monter une machination pour faire arrêter Dumbledore. C'est une question de jours. »
Harry repensa à la lettre de Percy. « Est-ce que tu sais s'il va y avoir quelque chose sur Dumbledore dans la Gazette du Sorcier de demain ? Percy, le frère de Ron, prétend que oui.
« Je ne sais pas, » dit Sirius. Je n'ai vu aucun membre de l'ordre pendant le week-end. Ils étaient tous trop occupés. Il n'y avait plus que créature et moi là-bas.
On sentait une très nette amertume dans sa voix. Alors tu n'as pas eu de nouvelles de Hagrid non plus.
Ah ! Dit Sirius. Je crois qu'il aurait déjà dû revenir. Personne ne sait très bien ce qui lui est arrivé.
Voyant leur expression atterrée, il s'empressa d'ajouter
« Mais Dumbledore n'est pas inquiet. » « Alors ne vous mettez pas dans tous vos états, je suis sûr que Hagrid va très très bien. »«
Mais s'il aurait déjà dû revenir ?»
dit Hermione d'une petite voix anxieuse.
« Madame Maxime était avec lui. Nous avons eu un contact avec elle et elle nous a dit qu'ils étaient rentrés séparément. Mais rien ne laisse penser qu'il ait pu être blessé ou... Bref, rien n'indique qu'il ne soit pas en pleine forme. »
Harry, Ron et Hermione, qui n'étaient pas convaincus, échangèrent des regards inquiets.
« Écoutez, ne posez pas trop de questions sur Hagrid, » reprit Sirius. « Vous ne pourriez qu'attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas encore revenu, et je sais que Dumbledore veut éviter ça. Hagrid est un dur, il s'en sortira très bien. »
Comme il ne semblait pas retrouver le sourire, il ajouta
« À quel moment aura lieu votre prochaine sortie après Hollard ? Je me disais qu'on pourrait faire comme pour la gare de King's Cross. Personne n'a remarqué le chien.
« Non !»
s'écrièrent Harry et Hermione d'une même voix.
« Sirius, vous n'avez donc pas lu la Gazette du Sorcier ?»
demanda Hermione d'un ton anxieux.
« Ah oui, ce petit article !» répondit-il avec un sourire. « Ils essayent toujours de deviner où je me trouve.
En fait, ils n'en ont pas la moindre idée.
Cette fois, c'est différent, dit Harry. Dans le train, Malfoy a fait une allusion, et on a tout de suite pensé qu'il savait que le chien, c'était toi. Son père était sur le quai, Sirius. Tu connais Lucius Malfoy. Alors quoi que tu fasses, ne viens pas ici. Si Drago Malfoy te reconnaît...
D'accord, d'accord, j'ai compris, répondit Sirius visiblement mécontent. C'était juste une idée, je pensais que ça vous ferait plaisir qu'on se retrouve.
Bien sûr que ça nous ferait plaisir, mais je ne veux pas qu'on te renvoie à Azkaban, dit Harry.
Il y eut un silence, pendant lequel Sirius, la tête au milieu des flammes, observa Harry. Un pli s'était dessiné entre ses yeux enfoncés dans leurs orbites.
« Tu ne ressembles pas autant à ton père que je le pensais, » dit-il, enfin, avec une nette froideur dans la voix. Pour James, c'était justement le risque qui était amusant.
« Écoute. »«
Bon, je ferais bien d'y aller. J'entends créature qui descend l'escalier, » dit Sirius.
Mais Harry était sûr qu'il mentait.
« Je t'écrirai pour t'indiquer le moment où je pourrai revenir te parler dans le feu, d'accord ? Si tu acceptes d'affronter un tel risque. »
Il y eut un petit pop, et les flammes s'élevèrent à nouveau à l'endroit où la tête de Sirius s'était trouvée un instant auparavant.